Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Santé Discount est une plateforme de commerce en ligne spécialisée dans la parapharmacie. Son chiffre d'affaires s'est envolé ces deux dernières années. Santé Discount est leader dans ce secteur, 25 000 références de produits. C'est la plus grande parapharmacie de France. Son directeur général Loïc Lagarde ne compte pas en rester là. Quelles sont les recettes du succès de Santé Discount? Comment l'équipe a-t-elle boosté l'activité du site? Réponse tout de suite. Santé Discount est un site de e-commerce, une start-up à l'origine, créée en 2008, devenue aujourd'hui leader dans son secteur d'activité, la parapharmacie. Merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Bonjour Loïc Lagarde.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Santé Discount, installé en banlieue toulousaine. Votre entreprise, c'est d'abord une histoire d'homme, une histoire de rencontre, comme souvent d'ailleurs.
Tout à fait. C'est avant tout deux pharmaciens de Toulouse, tous les deux de plusieurs générations de pharmaciens et qui possèdent des officines encore dans le centre de Toulouse, donc Monsieur Carrier et Monsieur Chiche, qui ont décidé en 2008 de se lancer dans l'aventure de l'e-commerce en se disant que les modes de consommation changeaient. Ouais. Tôt ou tard, les gens, cette mode de consommation-là, entre autres par le web, allait toucher le milieu de la pharmacie et de la parapharmacie pour commencer. Et au lieu d'attendre l'aide de l'extérieur, ils se sont dit que si les pharmaciens devaient rester pertinents, c'est aux pharmaciens de démontrer leur pertinence sur le web. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé l'aventure Santé Discount, avant tout sur de la parapharmacie, pour des raisons réglementaires sur la parapharmacie seulement, et pas donc tout ce qui est médicaments. Et donc du coup l'aventure a grandi et en 2014 j'ai eu la chance de les rejoindre pour accélérer l'aventure.
On va en parler ça, on va revenir là-dessus sur votre carrière, votre parcours. Mais en fait ils sont arrivés au bon moment, ils ont été un petit peu visionnaires.
Ils ont été tout à fait visionnaires et surtout, je pense, courageux de vouloir reprendre les codes établis et de se dire que ce ne devait pas être simplement une... L'abnégation n'était pas le seul sentiment possible quant au, face au changement, c'était plutôt une opportunité pour eux de faire continuer le métier de pharmacien qui leur tient très à cœur.
Alors vous les avez rejoints, pourquoi vous êtes lancé dans le e-commerce? C'est un secteur d'activité déjà que vous connaissiez?
Alors c'est un secteur d'activité que je connaissais le web de manière générale, c'était une de mes spécialités, et moi ce qui m'a plu dans cette aventure, c'était la possibilité de remettre de l'humain au centre du web. Alors c'est parfois quelque chose un petit peu de paradoxal puisqu'on n'attend pas que l'e-commerce soit très humain, mais pour moi le web apporte de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de comportement, des grandes potentialités, j'ai envie de dire, à la fois pour les consommateurs mais aussi pour les employés et les employeurs, tous les collaborateurs. Et donc cette possibilité-là a été pour moi le moment de changer dans ma carrière vers quelque chose d'un peu plus entrepreneurial et surtout quelque chose qui pouvait créer des emplois. C'était quelque chose qui me tenait à cœur.
Alors on va en reparler du côté humain du web parce que ça c'est très intéressant. Vous avez travaillé chez Google, formé chez Google, une bonne école?
Google, une très bonne école. Le conseil en stratégie avant Google aussi, une autre bonne école. La chance de découvrir aussi Google dans la Silicon Valley, c'est là où j'ai commencé à travailler chez eux, directement pour...
Juste en sortie d'études,
j'ai fait du conseil d'abord, le conseil en stratégie, dans un groupe qui s'appelait Monitor à l'époque, racheté par Deloitte depuis. Donc du conseil pour des gouvernements ou des grandes entreprises. Et enfin, j'ai rejoint Google pour faire du conseil, mais que pour une seule société, et pour l'équipe dirigeante de Google à Mountain View, donc dans la Silicon Valley, ce qui m'a permis de découvrir une autre vision aussi du monde de l'entreprise, des leaders où on a beau adhérer ou pas à leur vision, mais au moins qu'il y a une vraie vision et une volonté de faire bouger les lignes et de ne pas accepter les choses comme des acquis et de questionner un esprit critique assez poussé et à la fois un optimisme sans bornes. Je dois avouer que pour le français et l'ariégeois au fond de moi, ça a été
un bouleversement,
une plutôt une révélation. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui est au fond de, aussi de des valeurs de notre pays, et donc ça a été une libération et une volonté surtout de continuer sur ce chemin-là à ma rentrée en France.
Alors c'est ce que vous avez voulu justement continuer, puisque vous le dites, en mettant un petit peu plus d'humain sur le web. Comment on peut mettre de l'humain sur le web?
Déjà, c'est pour nous, sur Santé Discount, c'est l'omniprésence du conseil de pharmaciens. C'est-à-dire, on a beau être un site internet, il est tout à fait possible de nous appeler, envoyer un message, nous chatter sur Facebook. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. C'est très important qu'il y ait cette présence humaine derrière, avec des gens qui n'ont pas de script, des gens qui sont là pour vous écouter, pour régler les problèmes. 99% des coups de téléphone sont résolus par la personne qui décroche. Et rien qu'en disant ça, en gros, on est hors des sentiers battus dans l'industrie.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un au téléphone qui nous comprend, un pharmacien?
Alors, il y a des pharmaciens, des gens qui sont formés aussi pour connaître les produits. Un pharmacien est toujours disponible si la nécessité s'en fait sentir. Mm-hmm. Et l'importance surtout, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas des robots derrière un téléphone, mm-hmm. qu'on peut avoir dans certains centres d'appel où, en gros, on sait très bien que la personne à qui on parle ne pourra pas répondre à la question qui est la nôtre et résoudre notre problème. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu, nous au contraire, enlever les scripts, faire confiance aux gens et leur laisser la liberté justement de composer et d'être autonome. Et donc l'humain se ressent du point de vue du consommateur, mais il se ressent aussi du point de vue de nos collaborateurs qui ont en fait, du coup, derrière le téléphone, beaucoup plus de marge de manœuvre, de responsabilité, d'autonomie, et ce qui, je pense, fait l'emploi un petit peu plus intéressant pour eux.
Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui?
Nous sommes 70 aujourd'hui.
Un petit peu à l'étroit?
Un petit peu à l'étroit jusqu'à très récemment, puisque on a eu la bonne chance, la bonne nouvelle la semaine dernière d'apprendre que nous avons eu le bâtiment que nous souhaitions. Donc nous nous installons dans 20 000 mètres carrés cette fois-ci du côté de Montrab, donc toujours dans Toulouse Métropole, et très content de rester dans cette zone-là. Et là, avec un vrai outil pour pouvoir se développer correctement et surtout dans des bonnes conditions pour nos collaborateurs.
Alors vous voulez dire vous développez, mais déjà vous êtes leader, on peut le dire.
Oui.
De vente de parapharmacie en ligne,
oui,
en France. Ça veut dire attaquer les marchés européens, internationaux de manière plus large?
Alors oui, bien sûr, mais il faut déjà se dire que la France est un marché qui est naissant sur la parapharmacie en ligne.
Oui.
Ça paraît surprenant parce que la parapharmacie, en tout cas la pharmacie en général, est quelque chose de très connu en France. Mais pour vous donner quelques chiffres, la parapharmacie en France, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires à peu près, un secteur en croissance, et le web représente seulement 3% de cela. Donc si vous voulez, il y a une marge de manœuvre incroyable pour le web. Sachant que le web répond parfaitement aux problématiques du marché de la parapharmacie. Elles sont au nombre de trois. La première, c'est déjà un problème de disponibilité des produits dans toutes les pharmacies. C'est-à-dire, si je cherche une marque très précise, c'est parfois dur pour moi de la trouver dans la pharmacie la plus proche de chez moi, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, un problème de distorsion des prix. Chacun le sait en tant que consommateur.
Bien sûr, c'est vrai que ça peut varier énormément.
Ça peut varier. Ce qui est explicable aussi, les pharmacies de quartier jouent
un rôle.
C'est la
marge, en fait, du pharmacien.
Oui, mais jouent un rôle de disponibilité aussi et d'accessibilité pour lequel je ne trouve pas indécent que ça soit plus cher.
Il y a la marge et la quantité également.
Exactement.
Vous commandez en plus grosse quantité.
Voilà. Et on se positionne pas du tout, je veux dire, en compétition d'une pharmacie de quartier. On est plutôt sur le troisième aspect qui est aussi une récurrence d'achat. C'est ces trois aspects-là qui font que quand on a une distorsion des prix, un problème de disponibilité et de récurrence, le web est la réponse parfaite à ce genre de problème.
Ouais.
Et pourtant, ça a mis beaucoup de temps à émerger. Et donc, pour nous, pour répondre à votre question, le développement, c'est avant tout la France. C'est avant tout de continuer à maintenir notre place de leader et à éduquer tout un marché sur la possibilité d'acheter de la parapharmacie en ligne, plutôt que d'aller faire la queue dans des grosses parapharmacies où, en gros, on a une expérience parfois un petit peu impersonnelle et surtout, c'est assez contraignant d'aller se déplacer, avoir beaucoup de colis dans la main. Ces choses-là, on a la chance pour nous de le faire depuis le confort de son canapé et le recevoir chez soi aussi.
Les pays européens, par exemple, sont déjà passés à la vitesse supérieure. Je pense à l'Allemagne, notamment.
Exactement. L'Allemagne et l'Angleterre sont déjà à 10-20% de taux de pénétration, ce qui fait que pour nous, si vous voulez, mécaniquement, 1x3, 1x4 est tout à fait possible.
Il y a encore de la marge.
Et donc, du coup, ça nous laisse encore beaucoup de potentialité. Et vous avez mentionné aussi les pays européens. Il nous paraît normal que, en distribuant 70-80% de produits made in France, ça soit un acteur français qui aille aussi travailler l'étranger. Et c'est pour ça que nous nous sommes positionnés déjà sur l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, à travers une nouvelle marque qui s'appelle Sanareva. Et on compte bien sûr continuer notre expansion européenne dans les mois et les années qui viennent.
Alors comment ça marche le e-commerce dès qu'un client passe commande sur le web? Il est livré sous combien de temps? Vous avez des petits robots comme chez Amazon qui vont chercher les robots et humains qui vont chercher les produits?
Oui, on a
produits.
Des robots et humains. Donc on a une promesse d'expédier sous 48 heures la commande. Donc chez nous, il y a bien sûr sont des humains qui vont chercher les produits et qui donc préparent votre commande et l'envoient. Donc dès le moment où la commande est passée sur le site, vous avez pu trouver l'ensemble de vos produits. On prépare la commande et on vous l'envoie majoritairement par notre partenaire La Poste Colissimo.
Quels sont les produits qui se vendent le mieux? C'est quoi la... Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a une mode
ou... Alors, il y a des saisons, en fait. Il y a des saisons, donc du coup...
Bon, les solaires, on imagine.
Voilà, il y a les solaires. Mais là, en ce moment, on est quand même pas mal sur tout ce qui est spray nasal, vitamines, gelée royale, tous ces petits traitements de l'hiver, j'ai envie de dire, que les gens aiment bien prendre. Après, on va arriver sur la minceur. Ensuite, le vétérinaire est présent tout au long de l'année avec l'antipus. Donc c'est très difficile de vous dire, il n'y a pas un produit en fait, et c'est pour ça qu'il est important, et le web aussi résout cette problématique là, c'est d'avoir 25 000 références et d'avoir ce chiffre grandissant. Cela permet aux consommateurs de trouver tout au même endroit, et ça fait partie de notre promesse aussi. Et par le tout, on sait qu'il y a une sélection qui a été faite par nos pharmaciens sur les marques et les produits présents, ce qui permet du coup aux consommateurs et aux consommatrices de se dire que les produits sont de qualité et ont été, en tout cas, on répond à une certaine éthique qui est chère aux pharmaciens.
Éthique, on va en parler dans un petit instant. Loïc Lagarde, vous restez avec nous.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Au cœur du e-commerce, seconde partie de cette émission avec Loïc Lagarde, directeur général de Santé Discount, société leader de parapharmacie en France. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour Doris.
Référent éthique sur Radio Présence. Et première question à notre invité Loïc.
Eh bien, vous nous avez, dans les derniers mots, évoqué le mot d'éthique. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour nos auditeurs, ce que signifie éthique pour vous dans votre activité, dans votre entreprise, je dirais dans votre domaine en général?
Tout à fait. Pour nous, c'est avant tout l'éthique du pharmacien. C'est-à-dire qui, derrière cette activité d'e-commerce qui pourrait sembler juste une simple activité de distribution de produits, donc une simple activité, j'ai envie de dire, d'achat et de logistique, si on veut être réducteur, il y a avant tout des pharmaciens qui ont suivi des études, hein, qui sont entraînés à pouvoir prodiguer le meilleur conseil possible. Et c'est dans cette logique-là, et c'est dans cette envie, j'ai envie de dire, de ce prisme de lecture, que l'on regarde l'ensemble de nos fournisseurs, surtout les nouveaux fournisseurs qui viennent nous présenter des produits. Et c'est toujours un pharmacien qui regarde cela et se disant, est-ce que c'est quelque chose qui a une place dans une parapharmacie?
Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de référencer?
Tous les jours.
Tous les jours,
nous recevons des produits de différents
de
différents continents et qui essaient de se faire référencer et qui donc essaient d'avoir ce cachet que nous apportons en fait de confiance vis-à-vis de nos consommateurs et consommatrices. Et c'est pour ça, c'est le rôle du pharmacien en tant que garde-fou extrêmement important. C'est ce que nous efforçons à mettre en place tous les jours.
Jean-Marie, notre question.
Eh bien, on continue peut-être sur les fournisseurs. Je crois que c'est une question qu'on peut se poser. La pharmacie de base, elle est très régulée, très contrôlée, etc. On peut penser qu'elle est fiable, encore que quelquefois on entend des critiques redoutables. Mais dans le domaine de la parapharmacie, c'est certainement beaucoup plus souple. J'imagine qu'il y a malgré tout des réglementations, mais comment peut-on s'assurer et surtout, est-ce que ce réseau fournisseur reste fiable dans le temps? Est-ce que on arrive à sélectionner des entreprises qui sont pour vous sûres et donc fournissant des produits que vous pourrez vendre sans souci? Comment est-ce que se situe ce marché fournisseur?
Le marché des fournisseurs est très fragmenté, même si en regardant en fait pour les plus gros faiseurs, il y a peu d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites marques, mais en fait, ceux qui font beaucoup de volume, en fait, ils sont peu nombreux. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue et que tout le monde connaît. Dans la région, il y a Pierre Fabre, qui est un grand groupe et le leader de la dermocosmétique sur de la parapharmacie. Il y a L'Oréal avec Cosmétique Active qui vont représenter de nombreuses marques à eux deux. Et donc du coup, si vous voulez, il n'y a pas trop de problèmes de confiance sur les produits majeurs. Il y a eu peut-être certaines inquiétudes au moment de point de vue de la consommation sur le web, de savoir est-ce que c'était vraiment les produits qui venaient de là ou pas. Je pense que Santé Discount a su répondre à ces questionnements avec plus, je crois, de 60 000 avis sur nous dans les 12 derniers mois. Je pense que les gens peuvent se faire un avis avec une note de 9 sur 10 que nous sommes capables de délivrer sur notre promesse et des produits de qualité. Et donc ça revient en fait à votre question plus générale sur votre question précédente sur l'éthique, c'est tout simplement bien faire son travail et la volonté des pharmaciens qui sont à l'origine de cette aventure de faire perdurer le métier de pharmacien. Et je pense que si quiconque a une vision un petit peu moyen terme ou long terme de son métier, tout de suite, c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions et surtout refuser parfois de couper certains angles pour justement faire du profit immédiat avec des produits qui sont pour le moins douteux.
Le métier de pharmacien, puisque vous en parlez, est en pleine mutation. Mm-hmm. Depuis quelques années déjà. Hein.
C'est un métier en effet où le réglementaire a un énorme impact. Ouais, ouais. Et c'est un métier surtout qui se base sur le conseil. C'est-à-dire il ne faut pas oublier le rôle du pharmacien dans la société, sa capacité à venir conseiller sur n'importe quelle problématique les personnes qui poussent la porte d'une pharmacie. Donc il est important de le préserver pour son utilité publique. Mais en même temps, il évolue aussi avec son temps et Dieu merci, c'est pour ça que c'est intéressant de voir des pharmaciens à l'origine d'un tel projet et de vouloir justement faire bouger les lignes dans la bonne direction.
Vous imaginez vendre des médicaments ?
Alors, la réglementation venait à bouger, bien sûr, et la logique derrière cela est plutôt de se dire que nous préférons que ce soit des pharmaciens qui vendent les médicaments et qui restent du coup cette clé de voûte dans le système. Et c'est pour ça que nous sommes armés pour le jour où il y a une potentielle ouverture. C'est sûr que ça sera assez naturel pour nous de distribuer les médicaments, mais pour le faire, on a refusé jusqu'à présent, puisque pour le faire correctement selon la réglementation, c'est beaucoup trop contraignant.
Oui, pour l'instant, c'est pas possible.
Et nous sommes très contents de travailler que ne serait-ce que la parapharmacie.
Alors, on vous voit comme des concurrents, les pharmaciens, on vous voit comme des concurrents, le pharmacien traditionnel dans son officine. Un peu, quand même.
Le pharmacien dans son officine, oui, sans doute, et je peux le comprendre. Oui. Par contre, pour nous, nous ne voyons pas du tout compétiteurs de ces marchés-là. Parce que il joue un rôle d'utilité et de disponibilité des produits, de l'urgence, où on se rend que très difficilement présent. On peut pas, si vous avez besoin d'un médicament déjà, nous ne sommes pas là, mais si vous avez besoin d'un produit en urgence, votre pharmacien reste, et donc conseil en urgence, la pharmacie de quartier reste le meilleur des relais. Nous ne voyons pas du tout de compétition à ce niveau-là. Pour nous, notre secteur est la vente de produits de bien-être, qui ont été en gros vérifiés et tamponnés, j'ai envie de dire, par le sceau du pharmacien.
Jean-Marie, notre question.
Nous avons parlé des fournisseurs, vous avez parlé des produits. Est-ce qu'on peut dire quelques mots des clients ? Vous avez une multitude de clients. Est-ce que vous avez une idée un petit peu du profil de vos clients ? Sont-ils jeunes ? Sont-ils anciens ? Sont-ils en croissance ? Sont-ils fidèles ? Quelle relation avez-vous avec les clients ?
Nous avons la chance d'avoir beaucoup de clients beaucoup de clients fidèles. Et c'est surtout ça qui est important pour nous. C'est une des clés du succès dans l'e-commerce. C'est la capacité à fidéliser les clients. C'est là où nous essayons de passer le maximum de notre temps pour justement proposer la meilleure proposition de valeur pour quelqu'un qui a commandé une fois de vouloir recommander chez nous. Et donc pour ce faire, ça revient à la logique du conseil des pharmaciens, c'est bien connaître le consommateur et bien connaître le client ou la cliente.
Et on a des outils performants pour
exactement.
Ça aujourd'hui.
Et c'est là où moi, à titre personnel, ça m'intéressait. C'était comment, moi qui venais plutôt d'un univers où la technique était au cœur de l'aventure, c'est de se dire comment est-ce que la technique permet aux pharmaciens, au lieu de connaître 1000, 1500 personnes, j'ai envie de dire, de mémoire pour un bon pharmacien de quartier, qu'est-ce que je peux faire avec de la technique pour l'aider à bien connaître des centaines de milliers de personnes et à pouvoir bien et mieux les servir.
Quel type de manager vous êtes ?
Alors, un manager qui croit en l'expérimentation, j'ai envie de dire, pour le bon et pour le pire, et a eu une vraie volonté de vouloir changer les codes actuels. C'est-à-dire, je m'inspire beaucoup de ce qui s'est fait sur ce qu'appelle le management par la liberté. Mm-hmm. Donc, j'avais déjà évoqué au niveau de notre service client, mais pour moi, le triptyque de pouvoir donner de l'autonomie aux gens, de pouvoir leur donner une voie vers l'excellence, quel que soit leur métier, qu'ils se disent qu'ils deviennent meilleurs tous les jours à ce qu'ils font. Et le dernier, c'est tout en sachant quelle est leur place dans l'univers de l'entreprise, c'est-à-dire à quoi leur travail sert et pourquoi il est important. Je pense que dès le moment où on réussit à joindre ces trois bouts-là, on peut donner une perspective d'épanouissement aux personnes, et ça reste notre volonté que les gens viennent travailler le sourire aux lèvres. C'est pas facile, on fait des erreurs, ça nous arrive, mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de pas essayer.
Vous écoutez, vous avez une boîte à idées dans votre bureau ou à l'entrée dans l'entreprise?
Alors déjà, j'ai pas de boîte à idées, parce que pour moi, l'idée, elle ne doit pas être enfermée dans une boîte. On doit plutôt, c'est plutôt un raté de ma part si je n'ai pas réussi à inculquer une culture de la transparence et de la disponibilité en tant que manager, pour que les gens se sentent obligés de, j'ai envie de dire, de voter à bulletin secret. J'espère qu'ils peuvent venir me voir directement. Tous les vendredis, on a une réunion avec l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes totalement intégrés, c'est-à-dire que nous avons un service client, nous avons un service logistique, nous avons des développeurs, nous avons des pharmaciens, des esthéticiennes, des personnes en charge de l'international, de langue maternelle espagnole, russe, anglais. Donc quelque chose de très des collaborateurs et collaboratrices très très divers, et donc du coup ça me tient à cœur de les avoir tous les vendredis ensemble pour justement expliquer en toute transparence ce qui se passe dans la société, les chiffres, les bonnes choses, les mauvaises choses, et ouvrir un forum surtout pour que les gens puissent parler et se sentir libres de parler pour avoir une voie de communication, tout simplement,
ouais,
avec le manager.
Communiquer, ouais. Simplement, Jean-Marie,
vous avez
une question.
Très attaché au profil des hommes. Est-ce que vous avez une entreprise qui se développe vite, hein, 70% aujourd'hui, mais vous, 70%, mais vous imaginez déjà une croissance assez forte encore devant vous. Finalement, quels sont les critères suivant lesquels vous allez recruter et dans quel esprit se procède la relation avec vos personnels à venir?
C'est une très bonne question. Je pense que, à la différence de certains codes dans l'univers français, nous regardons le CV est quelque chose de pas très important pour nous, puisque nous sommes une entreprise assez jeune, et nous souhaitons justement rompre un petit peu avec les moules actuels, et donc nous recrutons plutôt sur l'attitude, j'ai envie de dire, plutôt que sur l'expérience passée et où est les diplômes, parce que quand on met quelqu'un face à un téléphone, par exemple, et devoir résoudre les problèmes d'un client en lui disant vous pouvez gérer comme bon vous semble, les gestes commerciaux, l'attitude de ce qu'il faut faire, le process. Il faut des gens qui ont envie de faire ça et qui se sentent, qui ont envie d'avoir cette autonomie. Je pense que tout le monde a envie d'une autonomie à un moment ou à un autre. C'est un besoin humain. Après, il y a des différents degrés de maturité, des gens qui sont prêts à le faire et d'autres pas encore. Nous essayons de recruter des gens qui sont déjà prêts à se lancer dans cette aventure qui est la nôtre, où il va falloir un petit peu de flexibilité, c'est sûr.
Dans combien de personnes cette année?
Cette année, nous espérons une cinquantaine de personnes de plus, de collaborateurs de plus qui pourraient nous rejoindre.
Tout profil, ceux que vous avez cités?
Tout profil, c'est-à-dire majoritairement, bien sûr, dans notre service logistique et service client, qui sont les services où il y a le plus besoin de croissance pour pouvoir avoir toujours la meilleure qualité de service. Et après, bien sûr, les autres services aussi, puisque nous devons nous grandir et nous structurer pour pouvoir être encore plus le leader de demain.
Alors Loïc, vous êtes un chef d'entreprise épanoui. On aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Il paraît, selon une récente étude, que 6 jeunes sur 10 ont envie de créer leur start-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Allez-y, faites. J'aimerais juste que ça soit beaucoup plus facile de le faire. Et là, je ne vais pas parler d'un point de vue administratif ou autre. Je vais juste parler dans l'inconscient collectif, la capacité à se rater, à faire des erreurs. Et je trouve que on ne valorise pas assez les erreurs. Pour moi, les erreurs, elles sont la meilleure des écoles. quelqu'un qui s'est jamais trompé.
Ça, c'est pas dans notre culture.
C'est quelqu'un de dangereux. Puisque on ne sait pas comment il va se tromper. Par contre, quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est relevé, qui a montré de la résilience dans la résolution de son erreur, c'est un profil extrêmement intéressant.
Et un message à faire passer à nos hommes politiques pour soutenir les créateurs de start-up. Attention, on ne fait pas de politique.
Non,
hein.
Mais justement, et j'allais vous répondre sur ce même ton-là. Je crois à l'individu et à la capacité, justement, aux entrepreneurs et au monde privé, de manière générale aussi, à créer la société dans laquelle on a envie de vivre. Mmh. Et c'est la responsabilité de tous, et pas forcément que des politiques.
De l'autonomie.
Exactement.
Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet ?
www.santédiscount.com.
Merci Loïc Lagarde.
Merci
à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.